enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Le thème de ce séminaire, c'est au secours d'un monde qui souffre. Et quand Claude m'a donné le thème et puis il m'a dit samedi matin sur quoi tu vas prêcher, j'ai commencé à réfléchir. Et vraiment, je me suis dit, on peut pas parler d'une église qui souffre, on peut pas parler de la guérison d'un corps qui souffre sans parler du Père. Parce que la guérison est véritablement auprès du Père. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est en souffrance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il suffit d'allumer le journal télévisé pour s'apercevoir que le monde, il est en souffrance. Celui qui dit tout va bien, il a rien compris. Il y a rien qui va. Il y a un monde qui souffre. La Bible nous dit un peu comme les douleurs de l'enfantement. C'est les signes qu'il y a quelque chose qui arrive. Et ce monde, il est en souffrance. Et je crois que le seul remède pour soulager la souffrance de ce monde, c'est l'Évangile. Vous savez, souvent, on a des gens autour de nous, ils ont des problèmes, ils ont des souffrances, et on n'ose pas leur dire que nous, on a la solution. On se dit, oh, ce serait peut-être présomptueux de dire qu'on a la solution. Mais si on a la solution, l'Évangile, c'est vraiment la solution de ce monde qui souffre. Et si on réalise cela pleinement, si on réalise ce que l'on a entre les mains, alors mes amis, ce monde, il a une chance de voir arriver le remède de sa souffrance. Vous savez, moi je dis toujours, si demain il y a un scientifique qui trouve un vaccin contre le sida, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire, ah ben tiens, c'était un bon exercice intellectuel, j'ai travaillé pendant 10 ans sur ce vaccin, j'ai essayé, ça marche, allez, je vais mettre la formule au fond d'un tiroir et puis je vais passer à autre chose? Est-ce que vous croyez que c'est ça qui ferait le scientifique? Non, il convoquerait la presse, la télévision, le monde scientifique, il dirait, ça y est, j'ai trouvé le vaccin. J'ai trouvé le vaccin contre le sida. Mes amis, vous avez trouvé plus que le vaccin contre le sida, vous avez trouvé le vaccin contre la mort elle-même. Vous avez trouvé l'évangile de vie. Vous avez trouvé Jésus-Christ qui a les paroles de vie. Donc c'est bien plus que simplement un vaccin contre le sida. C'est un vaccin contre la mort elle-même. Et aujourd'hui, eh ben, on doit partager cela parce que ce monde est en souffrance. Mais mes amis, l'idée, c'est pas d'amener les gens à l'église. Parce que comme le disait très justement Claude hier, parfois l'église, c'est un endroit qui est plutôt difficile à vivre. L'idée, c'est d'amener les gens au Père. D'amener les gens à rentrer dans cette présence, dans cette intimité du Père. Le thème de mon message ce matin, le titre, c'est « Des adultes ou des pères, des fils ou des serviteurs ». Un des passages préférés pour moi dans l'Évangile, je le dis toujours, c'est la parabole du fils prodigue. Peut-être parce que j'étais un petit peu comme le fils prodigue, vous savez, moi j'ai pas pu dilapider l'héritage, je l'avais pas, on me l'a pas donné, moi quand je suis parti de chez moi à 17 ans, on m'a donné un grand coup de pied dans les fesses, donc pour tout héritage, allez débrouille-toi avec ça, donc je me suis débrouillé avec ça, mais c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé, ce message. J'utilise souvent cette histoire comme support de mes prédications, parce que c'est quelque chose qui vraiment nous interpelle. On voit ce père, comment il est ce père? La Bible nous dit qu'il a vu arriver son fils de loin. Pourquoi il a vu arriver son fils de loin, à votre avis? Parce qu'il le guettait, il était là en train de se dire, mais quand est-ce qu'il va revenir? Toute la Bible, c'est un livre qui raconte l'histoire d'un Dieu qui a envie de retrouver ses enfants. Vous savez, la Bible, c'est une merveilleuse histoire d'amour du début à la fin. Hein. Toute la Bible, c'est Dieu qui dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pouvoir être réconcilié avec mes enfants. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour reconnecter avec mes enfants? Ils souffrent tellement, ils ont tellement besoin de guérison, ils ont besoin de délivrance, ils ont besoin d'être cajolés, ils ont besoin d'être aimés. Et moi, je souffre de les voir loin de moi parce que je sais que je peux leur donner le réconfort dont ils ont besoin. Et la Bible, c'est ça, c'est l'histoire d'un papa qui court derrière ses enfants et qui parfois, il est là, il se dit, mais pourquoi ils n'ont pas compris? Pourquoi ils reviennent pas à moi? Lorsque Dieu dit, à travers le prophète, qui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, c'est parce que il a soif de cette relation filiale. Bien sûr, on peut prendre ça au premier degré. Il va ramener le cœur des enfants à leur papa et le cœur des papas à leurs enfants. Mais au-delà de ça, il va ramener l'humanité à son père. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il est mort pour que nous puissions rencontrer le Père, revenir au Père. Et aujourd'hui, on a besoin de prendre complètement conscience de ces choses-là, mes amis. Si vous avez été blessé, si vous avez été en souffrance de quoi que ce soit, vous avez besoin d'une seule chose. Retournez au Père. Retournez au Papa. Moi, j'aime retourner au Papa. Vous savez, il y a quelques années, il y a mon meilleur ami qui est décédé. Et j'ai appris son décès à peu près 3 mois après qu'il soit décédé. Et on avait des tas de projets ensemble. Vous savez, on était musiciens tous les deux. On avait écrit des chants ensemble. On jouait de la musique. Je me souviens à l'époque, mon fils était bébé. Et puis, je faisais de l'accueil dans une vieille ferme en Savoie. Et puis, avec ce garçon, il s'appelait Philippe, on descendait avec nos guitares dans les rues. Et puis, on mettait la caisse de guitare, vous savez, les gens qui font la manche, on mettait la caisse de guitare et puis on jouait. Et puis, très rapidement, on se mettait à prêcher l'évangile. Et au bout d'un moment, on avait décidé que dans notre caisse, on n'allait plus recueillir des sous, on allait donner des choses. Alors, il y avait la caisse et on avait mis un panneau, servez-vous, c'est gratuit. Et dedans, il y avait plein de tracts, d'évangiles, de bibles, tout ce qu'on pouvait ramasser. Alors, les gens qui venaient pour poser les sous, ils étaient là et puis ils osaient plus ne pas prendre. Alors, ils nous regardaient, nous, on chantait, allez, vas-y, prends. Et puis, ils prenaient et puis ils repartaient avec un nouveau testament. Vous savez, c'était super. On avait des tonnes de projets ensemble. Puis, un jour de novembre, je sortais de l'école biblique quelques mois avant, je téléphone. Là où je pensais le trouver, et là on m'annonce qu'il était décédé. 3 mois avant, dans le mois d'août, il était décédé. Et mes amis, j'ai eu l'impression que le monde s'effondrait autour de moi. Parce qu'il y avait tous nos projets, mais au-delà de tous nos projets, vous savez, c'est quelqu'un que j'avais amené au Seigneur. C'est quelqu'un qui avait vécu chez moi, avec qui on avait vécu des choses extraordinaires ensemble. On aimait Dieu, il aimait Dieu. On avait l'impression qu'on allait croquer le monde. Et ce jour-là, je me suis dit, je ne vais pas pouvoir croquer le monde. Et j'ai eu l'impression que tout s'effondrait. Je ne sais pas combien d'heures d'affilée j'ai pleuré. Vous savez, quand vous pleurez, au bout d'un moment, vous n'avez même plus de larmes. J'étais là, j'arrivais plus. Et puis tout d'un coup, j'ai eu une vision. J'ai vu un grand escalier. Puis j'ai vu mon ami Philippe avec sa guitare 12 cordes assis sur l'escalier, en train de jouer de l'escalier. Puis il y avait Jésus plus haut. Et puis Jésus qui lui disait, allez viens, je vais te présenter au Père. Et tout d'un coup, j'ai eu l'impression de m'asseoir sur les genoux de papa. C'était vraiment le sentiment. Et vous savez, moi j'ai du mal à avoir ce sentiment. C'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Parce que j'ai pas eu souvent l'occasion de m'asseoir sur les genoux de mon père. Mon père, il avait une forme d'éducation, vous savez, assez musclée. Il se passait les nerfs sur moi dès qu'il rentrait du boulot. Et comme il avait un boulot qui l'énervait beaucoup, il se passait beaucoup les nerfs. Alors moi, j'avais du mal au début avec ce genre de sentiment, de relation. Mais tout d'un coup, j'étais dans les bras de mon père céleste. Et là, je me suis aperçu que c'était quelque chose de merveilleux. On a besoin d'être guéri. On a besoin de marcher dans la vie. Mais, mes amis, il faut pas partir d'une cure d'âme en cure d'âme, d'un livre sur la guérison à un livre sur la délivrance. Il n'y a qu'une seule solution pour être véritablement guéri, libéré dans nos cœurs, c'est d'aller simplement s'asseoir sur les genoux du Père. Et aujourd'hui, je crois que c'est ça que Dieu nous interpelle. Est-ce que vous avez connu le Père. Et vous savez, à un moment donné, dans la Bible, il est dit, je vous écris enfants, jeunes gens, pères. Et quand l'apôtre dit ça, il dit, je vous écris Père parce que vous avez connu le Père. Vous êtes rentré dans cette intimité du Père. Et je crois que si on a envie de vraiment être efficace dans notre vie de chrétien, il va falloir qu'à un moment donné, on puisse rentrer dans cette intimité du Père. Pas connaître des tas de choses au sujet de Dieu. connaître des tas de choses. Vous savez, vous pouvez prendre la Bible, la lire 20 fois et connaître des tas de choses au sujet de Dieu sans jamais avoir rencontré Dieu. L'apôtre Paul, à l'époque où il s'appelait Saul de Tarse, c'était un érudit, c'était une des personnes en Israël peut-être qui connaissait le mieux la parole de Dieu. Il connaissait des tonnes de choses au sujet de Jésus. Il savait quand Jésus allait venir, il savait dans quel village il allait naître, il savait qu'il allait naître d'une vierge, il savait qu'il allait faire des signes, des prodiges, des miracles, il savait tout ça. Mais lorsqu'il fait sa rencontre avec Jésus, la première chose qu'il dit, il dit « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Hey, tu l'as pas reconnu ? Pourtant, tu connais tout à son sujet. Et tu l'as pas reconnu ? Non, il n'a pas reconnu. Parce que vous savez, dans le verbe « reconnaître », ça veut dire « connaître de nouveau », il faut avoir tout d'abord connu. Il faut d'abord avoir eu ce cœur à cœur. Moi, je peux vous parler de Chopin. Ma fille, elle apprend le piano, elle a fait les exercices, les gammes, et puis la première chose que vous apprenez quand vous apprenez le piano à l'école de musique, c'est les petits exercices de Chopin, là. Je peux vous parler de Chopin, j'ai vaguement entendu parler de Chopin, je peux vous dire que c'était un compositeur et qu'il jouait du piano. Mais est-ce que j'ai connu Chopin? Est-ce que je sais qui il était? Est-ce que je sais à quoi il ressemblait? Est-ce que je sais quel caractère il avait? Est-ce que je sais si c'était un bon vivant? Est-ce que je sais s'il aimait le vin rouge ou le vin blanc? Non, j'en sais rien parce que j'ai jamais connu Chopin. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, on marche pendant des années en connaissant des tas de choses au sujet de Jésus, en connaissant des tas de choses au sujet de Dieu, mais sans véritablement connaître Dieu. Il y a quelques années, j'ai pris une année sabbatique. J'étais dans le ministère depuis des années. J'avais fondé des églises. J'avais vu des choses extraordinaires à Madagascar dans mon ministère. J'étais heureux. Et tout d'un coup, Dieu m'a arrêté. Alors sur le coup, moi je croyais pas que c'était Dieu qui m'arrêtait. J'aurais bien chassé 2-3 démons pour me débarrasser de cet arrêt intempestif dans mon ministère. Mais Dieu m'a arrêté et j'étais, franchement, comme disait Claude hier par rapport au ministère, j'étais un peu désemparé. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce qui était en train de m'arriver de responsable d'une œuvre missionnaire dans l'océan Indien. Je suis devenu pompiste. Ça le fait pas, hein. Imaginez, vous rayez ministère sur votre carte de visite et en dessous vous marquez pompiste HL. Assistant manager. Alors le titre c'était assistant manager parce que de toute façon comme j'étais tout seul, alors j'étais l'assistant du directeur qui était pas là pour me surveiller à moi-même. J'étais là dans ma station service et c'était vachement intéressant comme boulot. Quelle pompe? Numéro 4. 12 livres. Crédit carte, cash, chèque, on prend pas les chèques. Parler d'une prédication, surtout quand vous avez répété 92 fois la même chose dans la soirée. Puis un soir, j'avais un rendez-vous avec Dieu. Vous savez, quand Dieu il a envie de vous voir, il est capable de mettre les circonstances qu'il faut. J'étais dans une station-service, il n'y avait pas un client qui avait besoin d'essence. À croire qu'ils avaient tous fait le plein dans la vie de Southampton, ils avaient tous rempli leur réservoir juste avant le week-end. Moi j'étais là et je m'ennuyais. Alors j'ai mis la radio. Il y avait du foot à la radio. Franchement, vous avez déjà écouté le foot à la radio? Ça ressemble à rien. Déjà, le regarder à la télé, je trouve ça un peu bizarre, mais alors l'écouter à la radio, vous les voyez même pas courir derrière le ballon. Alors vous entendez un gars qui s'excite, il va marquer, il va marquer, il va marquer, il a marqué, non, il a raté. Et vous, vous êtes là à la radio, vous essayez d'imaginer ce que c'est. Alors j'ai éteint la radio. Puis là, j'ai décidé d'ouvrir une autre radio. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert cette radio-là, parce que je boudais. J'avais pas trop envie de discuter avec Dieu. Il m'avait enlevé mon ministère, il m'avait enlevé mon jouet. Alors j'étais un peu fâché avec lui. Vous savez, comme quand les gosses, vous leur enlevez, t'es puni de voiture, tiens, je prends la matchbox. Et puis là, ils font la gueule, ils boudent. Et là, je boudais, alors je me suis mis à prier, mais vous savez, sans trop attendre quoi que ce soit. Vous savez, ce genre de prière que vous faites, parce que vous vous dites, tiens, j'ai rien d'autre à faire, ça serait peut-être bien que je prie aujourd'hui. Alors j'ai commencé à prier. Bon ben, écoute Seigneur, bon si t'as quelque chose à dire, ça fait longtemps que je t'ai pas écouté, alors si tu as quelque chose à dire. Eh bien, ça tombait bien, Dieu avait quelque chose à dire ce soir-là. Il est venu vers moi et puis il m'a dit, « Hé, où étais-tu, fils ?»« Pardon, Seigneur. Je viens de passer 6 ans dans la mission. J'ai failli mourir 2 fois du neuropalu. J'ai été opéré 1 fois à cause des résultats du palu. J'ai tout donné. J'ai pris 3 semaines de vacances en 6 ans. Et tu me demandes où est-ce que j'étais ? Franchement, est-ce que vous croyez que Dieu, qui est omniscient, avait un doute de l'endroit où j'avais passé ces dernières années ? Vous croyez que tout d'un coup, il y a un nuage qui est passé, j'ai perdu Michael de vue. Je ne sais pas où il était pendant 6 ans. Vous croyez que ça peut arriver, des choses comme ça ? Non, ça ne peut pas arriver. Moi, j'étais fâché, j'ai reboudé de plus fort encore. Alors, vous savez, quand vous boudez, Dieu, il n'insiste pas, hein. Puis au bout de 10 minutes, 15 minutes, j'ai dit, bah, ça la fout mal, peut-être que Dieu il a vraiment quelque chose à me dire. Alors j'ai reposé la question, Seigneur, peut-être j'ai pas bien compris ce que tu me disais tout à l'heure, alors est-ce que tu pourrais me le redire s'il te plaît ? Oui, Michael, où étais-tu, fils ? 3 fois, il m'a fait. La 3e fois, je me suis dit, peut-être que là, il faut vraiment que je cherche à comprendre. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a montré que le mot-clé de la question, c'était pas « Où étais-tu ?» parce que Dieu savait très bien où j'étais. C'était le mot « Fils ». Où étais-tu en tant que fils ? Où étais-tu en tant que mon enfant ? Où est-ce que j'étais moi en tant que père ? Et là, j'ai réalisé que pendant toutes ces années de ministère, à chaque fois que je priais, c'était pour demander quelque chose. Je demandais un bon message pour le dimanche matin, je demandais plus d'onction pour exercer le ministère, je demandais plus de finances pour voyager, je demandais à Dieu de guérir les gens pour qui je priais, je demandais des signes, des prodiges, je demandais, mais je passais jamais le moindre instant avec Dieu en tant que père. Tiens papa, j'ai rien à demander aujourd'hui. Tout ce que je veux faire, c'est venir m'asseoir sur tes genoux et passer un moment avec toi. Vous savez que c'est ça que Dieu a envie ? Vous savez que le meilleur moyen que vous avez de bénir Dieu, c'est de venir et de vous asseoir sur ses genoux. Voilà. Vous vous asseyez sur les genoux du Père. Vous savez, c'est une superbe position de s'asseoir sur les genoux du Père. La Bible nous dit que nous allons régner avec Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ et nous allons régner avec Jésus-Christ. Et parfois, nous, pour pouvoir régner avec Jésus-Christ, on arrive dans la salle du trône et puis on voit le vieux gars là-bas sur son... Pousse-toi, c'est moi qui vais régner maintenant. Vous croyez vraiment que Dieu il va se pousser du milieu pour que vous régniez ? Il dit non, attends, ça se passe pas comme ça. Si tu veux t'asseoir sur le trône, tu es le bienvenu. Mais moi, je me lève pas. Tu vas être obligé de t'asseoir sur mes genoux. Ah, voilà une réflexion à laquelle nous devons réfléchir. Pour pouvoir régner, c'est-à-dire pour pouvoir marcher dans une autorité en tant que chrétien, on a besoin d'apprendre à aller s'asseoir sur les genoux de Dieu qui est assis sur le trône. On a besoin de rentrer dans cette intimité du Père. Souvenez Jésus ? 100% de réussite à tout ce qu'il faisait dans son ministère. La Bible nous dit qu'il n'y a pas une seule prière qu'il a fait et que le Père n'a pas répondu. Intéressant, non ? Et qu'est-ce que disait Jésus ? Il disait « Je ne fais que ce que je vois faire le Père. Ce que le Père fait, je le fais. » Il y avait cette intimité avec le Père qui permettait à Jésus de ne jamais se tromper lorsqu'il priait, d'avoir toujours la parole qu'il fallait. 100% d'efficacité. Pourquoi ? Parce qu'il était dans cette intimité avec le Père. Amen. C'est tellement important, mes amis, de comprendre que on n'arrivera à rien dans notre vie chrétienne simplement en connaissant des tonnes de choses au sujet de Jésus. Mais ce qu'il faut faire, c'est connaître Christ, connaître le Père, connaître le Saint-Esprit. Passer du temps avec eux. Vous savez, on ne peut pas connaître quelqu'un si on le rencontre simplement comme ça, quelques secondes, et puis on dit, ah ben ça, oui, je le connais, tiens, Claude Payan, je l'ai croisé l'autre jour, il descendait l'escalier, moi je montais vers le snack, je l'ai croisé, je lui dis bonjour, parce que je suis quelqu'un de poli, et du coup je peux dire, je connais Claude Payan. Vous allez me dire, attends, là t'exagères, tu connais pas Claude Payan, tu l'as croisé. Vous savez, moi j'ai croisé des tas de gens, c'est pas pour ça que je les connais. On a besoin d'approfondir. On a besoin de passer du temps. Combien de temps on passe véritablement dans l'intimité du Père ? Si dans notre temps de prière, déjà, on enlève la liste des courses, la plupart du temps, il ne reste plus grand-chose hein, que l'on passe dans l'intimité. Parce que déjà, quand on arrive avec notre liste des courses, vous savez, quand vous avez les courses, vous sortez la liste, vous mettez la liste, bon alors voilà, Jira, il faut ça, 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 et puis je vais avoir le papier de ma liste entre Jira et moi. Non, il y a séparation, là, il n'y a pas encore ce... Non, on a besoin d'intimité. On a besoin d'intimité avec Dieu, d'intimité avec le Père. Pas simplement louer Dieu en disant, oh Seigneur, je t'aime. Eh bien, si tu m'aimes, pourquoi tu ne me fais pas un câlin? Si tu m'aimes, pourquoi tu ne me prends pas dans tes bras? Oh, mais Seigneur, je t'aime, je t'aime. Oui, mais quand est-ce que tu vas venir? Vous n'avez jamais remarqué, moi, à une certaine époque de ma vie de chrétien, je m'apercevais que j'étais capable de crier le dimanche matin, de sauter, de dire au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Il y avait tout le monde qui était là, et puis j'étais pris dans le mouvement, et puis j'adorais Dieu, je levais les mains, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis après, c'était fini, jusqu'au dimanche d'après, je lui disais plus. Essayez d'imaginer ce que Christ peut ressentir dans ce genre de situation. C'est comme si je dis à ma femme « je t'aime » à chaque fois que je suis en public, et puis dans l'intimité, je lui dis jamais. Si à chaque fois que je suis avec mon épouse, et puis qu'on est à l'église, je la prends dans mes bras, je la cajole, je lui fais un bisou, et puis que dès qu'on est sorti de l'église, je la repousse. Non, non, j'ai pas le temps. Moi, je ne sais pas, vos épouses, connaissant la mienne, je peux vous garantir qu'elle va mordre au bout de 3 jours. On n'apprécierait pas des choses comme ça. Pourtant, c'est ce qu'on fait souvent avec Christ. Quand on est en public, quand on est tous ensemble, alléluia, Seigneur, nous t'aimons, et puis on ne passe pas de temps avec lui. On ne passe pas de temps dans son intimité. On a besoin de ce cœur à cœur avec Dieu. On a besoin de rentrer dans l'intimité du Père pour être guéri, pour être efficace, pour faire tout ce qu'on a à faire. Amen. Dieu attend de nous de la même façon que nous devenions des pères. Une des grandes souffrances de l'Église, c'est le manque de pères et de mères spirituelles dans l'Église. Oh, il y a plein d'adultes dans les Églises. Il y a plein de gens qui connaissent. Il y a plein de gens qui ont grandi en maturité, qui ont étudié la parole de Dieu, qui ont été à plein de séminaires de Claude Payan. Alors, ils connaissent plein de choses. Mais mes amis, connaître des tas de choses, ça ne fait pas de vous un père. C'est quoi la différence entre un père et un adulte? A priori, qui c'est qui est père ici? Levez les mains. Ok. Et qui c'est qui est un adulte? Voilà, ok, on est les mêmes, hein. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a enfanté et il y en a un qui a jamais enfanté. Mais après, de l'extérieur, c'est exactement les mêmes, ça ressemble exactement à la même chose. C'est un adulte et un père, ça peut être pareil. Il y en a un qui a enfanté, un qui n'a pas enfanté. Le problème, c'est qu'il y a des tas de choses, quand vous n'avez pas enfanté, c'est compliqué à comprendre. Moi, une des choses que j'ai appris avec mes enfants, et vraiment j'ai appris ça, c'est la grâce. Vous avez envie de faire grâce à vos enfants. Quand vous êtes un père normalement constitué, en tout cas. Vous avez envie de faire grâce à vos enfants. Moi, mes enfants, ils ont besoin de rien faire pour que je les aime. Je les aime. Ce sont mes enfants. Vous savez, une des choses les pires que j'ai entendues, j'ai travaillé dans les métiers de l'éducation pendant des années, une des choses les pires que j'ai entendues lorsque j'avais des confrontations avec des parents à cause des problèmes des enfants, c'était les parents qui disaient « Ah ben je t'aime plus si tu fais ça oh. !» Sans blague. T'es grave si t'aimes plus tes enfants parce qu'ils ont fait une bêtise. Mes amis, Dieu, il nous aime, quelles que soient les bêtises qu'on fait. Il a un amour pour nous qui est inconditionnel. Et je sais que l'amour que j'ai pour mes enfants, il est inconditionnel. Même s'ils font des bêtises, même si les bêtises sont graves à un moment donné, eh ben vous vous dites, eh ben ce sont mes enfants, et je vais continuer à les aimer, et je vais continuer à tout leur donner, et je vais continuer à tout faire pour que mes enfants puissent grandir, évoluer, changer, connaître Dieu. On passe toujours l'éponge avec nos enfants. Vous savez, parfois, on est là et puis on punit nos enfants. Et puis, souvent, ma fille, vous savez, il n'y a pas besoin... Elle a 13 ans aujourd'hui et c'est toujours la même chose. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour l'émouvoir. Si vous levez le ton quand elle était petite, on levait le ton, on la regardait, Océane, qu'est-ce que tu fais? Et puis elle était... J'ai pas vraiment besoin d'une fessée, hein. Je peux vous garantir, juste lever le ton, hop. Nathan, mon autre garçon, alors lui, c'est pas du tout le même gabarit. Hein. Nathan, c'est confrontation. On a besoin de se bourrer le mou. Il aime bien ça. Ils sont tous différents. Et mes enfants, ben, quelle que soit leur différence, pourtant, il y a des fois, ils font des trucs, ça me plaît pas. Il y a des fois, mais je les aime, ce sont mes enfants. De la même façon, dans l'Église, on a besoin d'avoir des pères. On a besoin d'avoir des gens qui sont capables d'aimer de façon inconditionnelle les chrétiens qui sont autour d'eux et les gens qui sont autour d'eux. Qu'est-ce qu'on est prêt à subir pour les chrétiens qui sont autour de nous, pour les gens qu'on amène au Seigneur? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Est-ce que la plupart du temps, on est des adultes ou on est des pères? Vous savez, dans cette parabole du fils prodigue, à la fin de la parabole, il y a l'histoire du frère aîné. Il revient du champ, et puis là, il se dit, qu'est-ce que c'est que cette fête? Et là, il y a un serviteur qui lui dit, ouais, c'est parce qu'il y a ton frère qui était perdu, on l'a retrouvé, il est en bonne santé. Alors ton père, il est tellement content qu'on l'ait retrouvé, qu'il est en bonne santé, qu'il a tué le veau gras. Et là, mes amis, le frère aîné, il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre, parce que tuer le veau gras pour ce bon à rien, c'est incompréhensible pour lui. Lui, c'est un adulte. Il a pris ses responsabilités depuis longtemps dans l'entreprise familiale. Il travaille, il s'occupe des champs, il s'occupe du bétail, il fait tout à la perfection. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de sérieux, il a grandi, c'est plus un enfant. On pourrait dire qu'il est bien à tous égards, ce gars-là. Pendant que le petit frère dilapidait l'héritage et puis allait faire la fête avec les copains et puis se retrouver dans une situation catastrophique, lui, il avait tenu la barre. Certainement, il a dû travailler peut-être deux fois plus pour pouvoir assumer de ce que le petit frère était en train de faire des bêtises. Et là, il comprend pas. Malgré sa grande maturité, malgré tout ce qu'il connaît, il comprend pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que tu fais la fête pour ce bon à rien? Alors que moi, je suis en train de m'épuiser pour rattraper les bêtises qu'il a fait. Moi, j'ai toujours été là, je t'ai même pas demandé un agneau pour faire un barbecue avec mes copains. Et lui, il arrive et tu lui fais la fête. Il a une réaction d'adulte. Et il n'arrive pas à comprendre le cœur du père. Qui malgré tout, ben, le cœur du père, il a décidé de pardonner au plus jeune frère. Il n'arrive pas à comprendre qu'un père, il est prêt à passer l'éponge sur tout parce qu'il aime de façon intrinsèque son enfant. Nos églises sont pleines d'adultes. On a besoin d'avoir des églises pleines de pères. Ce que j'aime bien, c'est la réaction du père à ce moment-là. Il ne se met pas en colère après le fils aîné. Il dit non, non. Viens, rentre. Il lui explique. Et aujourd'hui, je ne veux pas me mettre en colère ou donner l'impression que je fustige les adultes dans l'Église, parce que le Père ne l'a pas fait non plus. Le Père, il le dit, attends, laisse-moi t'expliquer quel est mon cœur. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je suis tellement heureux que ton petit frère soit rentré. Tout ce que j'ai est déjà à toi. Tu n'as même pas besoin de me demander, c'est déjà à toi. Tout ce que j'ai est déjà à toi. Tu aurais pu te servir quand tu voulais un veau gras, mais tu pouvais le prendre. Mais laisse-moi t'expliquer mon cœur. Laisse-moi rentrer dans ce cœur à cœur. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu cherche des pères et des mères au milieu de l'Église. Des gens qui sont prêts à tout pardonner. Qu'est-ce que Jésus dit ? Un jour, il y a Pierre qui est venu et puis il s'est dit, tiens, je vais frimer un coup, là, je vais paraître vachement spirituel. Il est allé voir Jésus, il a dit, dis-moi, si mon frère, il pêche contre moi, là, combien de fois je lui pardonne ? Et là, il s'est dit, attends, je vais réfléchir une fois, deux fois. Deux fois, j'aurai du mal dans la même journée. Hein. Peut-être trois fois. Allez, on va faire le gars vachement spirituel. Certainement, sept fois, Seigneur. Et là, la réponse de Jésus, il le regarde et il dit, mais sept fois ? Non, pas sept fois. Sept fois, 77 fois. Pierre, il a dû se dire, non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que pour ces enfants, on n'est pas prêt à pardonner cette fois 77 fois ? Bien sûr qu'on est prêt à le faire. Bien sûr qu'on est prêt à le faire. Cet état d'esprit, mes amis, ce n'est pas un état d'esprit d'adulte. Ce n'est pas un état d'esprit réfléchi. Ce n'est pas un état d'esprit qui est basé sur toute votre connaissance et tous les efforts que vous avez faits pour devenir un bon chrétien mature. Cet état d'esprit, il est basé sur le fait d'être père. Comment on fait pour devenir père ? On a besoin de cette communion avec le Père. Un père, il est prêt à tout arrêter avec ses enfants. Il est prêt à laisser ce qu'il fait pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Même quand c'est sérieux, même quand c'est important. Un père, il est toujours à l'écoute de ses petits. Un père, il est prêt à tout lâcher. Comme Jésus disait, un berger, il lâche 99 brebis parce qu'il y en a une qui se perd. En tant qu'adulte, qu'est-ce qu'on fait quand on pense à ça ? On dit, mais c'est stupide. Il met 99 brebis en danger pour une. Ça, c'est une réaction d'adulte. Mais une réaction de père, c'est je veux pas que le moindre de mes tout petits ne puisse se perdre. Amen. On doit passer dans un mode différent au niveau de nos cœurs, de nos pensées, de nos façons de vivre et d'agir dans l'Église. On doit penser différemment que des adultes. Vous savez, dans la Bible, je crois que Dieu, lui, ce qu'il attend de nous, c'est pas qu'on soit des adultes. D'abord, il dit que le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Et ensuite, il nous propose d'être père. Un des plus beaux compliments que mes enfants m'ont fait un jour, c'était à l'époque où j'étais devenu vieux pour eux. J'avais dû passer 35 ans au moins. Ils sont venus, et puis mon fils est né, il était haut comme ça à l'époque, et puis il me dit, tu sais papa, ce qui est super avec toi, eh ben, c'est que tu es un papa, mais en même temps tu es un enfant. C'était le plus beau compliment que mes enfants puissent me faire. Et je crois que c'est ça que Dieu y cherche. Il cherche des gens qui sont capables d'être des papas et qui sont capables d'avoir un cœur d'enfant. Des gens qui sont capables de jouer avec leurs enfants et quand il faut être un papa, d'être un papa. Des gens qui sont capables de toujours courir à l'autre bout du monde pour aller chercher leurs enfants si c'est nécessaire. Parce que ce sont des papas et qui ne veulent pas que leurs petits se perdent. Mais pour devenir un papa, il faut qu'on ait une autre image de ce qu'est un père. Vous savez, je le disais tout à l'heure, moi, au niveau de mon père, j'ai pas eu particulièrement de relation très filiale, on va dire. C'était toujours très 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 compliqué. J'ai commencé à vivre chez mes parents, j'avais 6 ans. Avant, j'avais vécu chez mes grands-parents. Et quand je suis arrivé là un petit peu comme un cheveu au milieu de la soupe. Je sortais du cocon de chez mes grands-parents, vous savez, qui m'adulaient, qui... Vous savez, les grands-parents, comment ils sont, hein. Et puis, je sortais de là et je me retrouvais dans une famille qui marchait pas. Mes parents, ils ont mis 23 ans pour divorcer, mais ils auraient mieux fait de divorcer pas avant parce que on a subi des choses qui n'étaient pas vraiment super. Et puis, moi, quand je suis arrivé à l'âge adulte, eh ben, j'avais une image de mon père qui se reflétait beaucoup dans ma relation avec Dieu. J'avais du mal à imaginer que Dieu puisse m'aimer. J'avais du mal à imaginer que je puisse aller m'asseoir sur les genoux de Dieu. J'avais du mal à imaginer simplement que Dieu puisse être intéressé par ce que je vivais ou ce que je faisais. Dans les premières années de ma conversion, j'étais super content. J'avais rencontré Jésus-Christ. Il m'avait sauvé, il m'avait délivré, il avait donné un sens à ma vie. J'avais rencontré le Saint-Esprit. C'était super. Mais alors, il fallait pas me parler du Père. Et quand j'étais à l'école biblique, je me souviens, un jour, il y avait le cours, on arrive au cours, et le cours, c'était rencontrer le Père. Au bout de 5 minutes du cours, je suis sorti. Je suis sorti de la salle de cours. J'arrivais pas à rester. Ça m'énervait. Je suis rentré pendant le temps de break de la récréation, j'ai discuté avec les autres étudiants, et puis le cours a repris. J'ai dû sortir, je n'arrivais pas à supporter, parce qu'il y avait quelque chose là-dedans qui criait et qui supportait pas d'entendre parler de Dieu en tant que père. Alors je suis ressorti une deuxième fois, je suis allé faire des courses. Ça tombait bien, la secrétaire, elle avait plus de papier pour la photocopieuse. T'inquiète pas, moi qui suis un serviteur de Dieu serviable, je vais aller chercher une ramette pour toi. Je suis allé acheter le papier, je suis allé chercher les enfants d'un autre étudiant, et je suis arrivé sur le parking et j'ai regardé par la fenêtre, et j'ai vu qu'ils étaient tous debout en train de prier. J'ai dit, ça y est, le cours est fini, je vais me faufiler discrètement parce que pendant que les gens prient, ils ferment les yeux. Et là, personne ne verra que j'étais pas là. J'ai ouvert la porte de la salle de cours pendant qu'ils priaient, ils étaient tous à se tenir la main, j'ai pris, j'ai tenu la main des autres. Et là, à ce moment-là, il y a cette sœur qui avait parlé de l'amour du Père pendant toute la matinée. Elle a dit, « Seigneur, je veux maintenant que ton amour de Père descende sur eux et qu'ils goûtent à ton amour de Père. » Et là, j'ai hurlé. Je suis parti en courant. Je ne supportais pas. Et je me souviens, à l'époque, dans le hall de l'école, il y avait un gros distributeur de boissons. Vous savez, café, soupe, chocolat, thé. Et à côté, il y avait un porte-manteau. Et il y avait un espace de 30 cents entre le mur et le distributeur de boissons. Je suis allé me cacher là-dedans. Et là, il y a un pasteur qui est venu de l'école. Et puis, il y a cette sœur qui avait partagé la parole de Dieu. Qui sont venus. Et ils ont posé leurs mains sur moi, et puis ils ont demandé au Saint-Esprit d'abord de me montrer ce qui s'était passé dans mon enfance pour qu'il y ait une telle réaction. Je n'avais pas vraiment besoin que le Saint-Esprit me montre ça, parce que je savais exactement, j'avais encore mal à la reprise de tout ce que j'avais pris comme coup. Alors vous savez, ce n'est pas bien compliqué. Tout d'un coup, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit. Et il m'a montré mes parents en train de discuter avant même que je ne sois conçu. Ça peut paraître bizarre comme ça. Mais il y avait mon père qui était en train de discuter avec ma mère et qui disait, écoute, le seul moyen d'obtenir la signature, vous savez, la majorité à l'époque, c'était 21 ans. Mon père, il avait 20 ans quand je suis né. Il a dit, le seul moyen d'obtenir la signature de mon père pour qu'on se marie, c'est de lui faire un héritier. Donc moi, j'ai été conçu, la motivation de mes parents, quand ils m'ont conçu, c'était de faire ployer le grand-père. Et là, Dieu a commencé à guérir mon cœur. Le Saint-Esprit a commencé à toucher mon cœur. C'était waouh, c'était comme une huile. Et puis, d'un coup, j'ai senti les bras du Père se refermer autour de moi et me prendre et me coller contre lui. Quand j'étais tout à l'heure, c'est marrant parce que la personne qui est venue me dire ça ne savait pas sur quoi j'allais prêcher ce matin, mais il y a quelqu'un, pendant qu'on était en train de prier, il m'a dit, c'est marrant, je te voyais avec un bébé dans les bras en train de percer, de cajoler un bébé pendant que tu prêchais. Mais c'est exactement ça que Dieu veut faire aujourd'hui. Le Père, il a envie ce matin de prendre plusieurs parmi nous dans tes bras et de les cajoler. Le Père, il a envie de vous dire,
quelles que soient les expériences que vous avez vécues de par le passé, dans votre relation avec votre Père, ou avec Dieu, ou avec l'Église. Peut-être que vous avez été blessé dans l'Église parce que vous êtes tombé sur des adultes qui n'ont pas été capables d'avoir la compassion d'un Père. Ne leur en voulez pas. Dieu ne leur en veut pas. Dieu va s'occuper d'eux aussi. Dieu va les cajoler aussi pour qu'ils changent et qu'ils deviennent pères à leur tour. Mais aujourd'hui, chacun d'entre nous, on a besoin de cet attouchement du Père pour aller plus loin. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on puisse prier tous ensemble. Qu'on puisse prier. Si vraiment vous êtes interpellé par ça, si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'être pris dans les bras du Père, je vais vous demander de venir. Je vais demander à l'équipe de prière de venir ici et on va prier très simplement. On ne va pas commencer à chercher pourquoi, du comment, pourquoi, qu'est-ce que vous avez vécu. Ne racontez pas ce que vous avez vécu. Laissez-vous simplement toucher par le Père. Je voudrais que les gens d'équipe de prière, vous veniez et puis simplement vous allez prendre dans vos bras et vous allez prier les gens afin qu'ils goûtent cet amour du Père. Amen. C'est vraiment important, mes amis, de goûter à ce que Dieu veut. Il y a une véritable source de guérison dans l'amour du Père, dans le cœur du Père, qui ne demande qu'une chose, c'est de couler sur vous ce matin. Et je sais que vous allez pouvoir sortir de ce lieu complètement différent. Si vous avez cet attouchement du Père, vous allez pouvoir sortir de ce lieu transformé. Je suis sorti de derrière cette machine à café, j'étais une autre personne. J'étais quelqu'un de complètement différent parce que Dieu m'avait pris dans ses bras et m'avait fait goûter à l'amour du Père. Alléluia.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.